ce que la justice, c'est sérieux, jusqu'à preuve du contraire. Par maître Mignard.
Bonjour mes acharnés des prétoires. On va parler aujourd'hui de l'histoire du droit des femmes. Et comme c'est une longue et laborieuse histoire, ça se fera en deux parties. Plus c'est long, plus c'est bon, hein Margot?
No comment.
Ah, il n'y a pas si longtemps, c'était le 8 mars, jour dédié aux avions de chasse. Mais non, dédié aux femmes, bande d'incultes. Mais j'avoue qu'on peut confondre les deux. Je dois aussi vous faire une confidence, chère Margot de Power. J'ai essayé, réellement essayé, de faire une chronique sur le droit des femmes sans désinguer les hommes. Mais comme Zinedine Zidane face à Materazzi en 2006, j'ai pas réussi à garder mon fair-play. Oui, mais parce que j'entends déjà les gars au fond de la classe, là, les derniers cornichons du bocal, les chips desséchés du placard de mamie. Je les entends dire « Ouais, pourquoi il y a une journée exprès pour la femme ?» Je répondrais bien qu'en parallèle de la journée de la femme, il y a 364 jours pour les hommes chaque année. Mais je veux rester de bonne foi, autant que mon voisin de train que j'ai vu s'enfourner une salade de choux de Bruxelles et qui, une demi-heure après, m'a dit « C'est pas moi qui a pété, hein !» Bon, eh bien, la bonne foi m'amène à dire que, en vérité, il y a bien une journée de l'homme, et c'est le 19 novembre. Alors après, tout est relatif, hein, parce que ce même 19 novembre, c'est aussi le jour du naufrage du pétrolier Le Prestige, des raz-de-marée de la Sainte-Élisabeth qui ont englouti une partie des Flandres et de la Belgique trois fois de suite au XVe siècle. Hein. C'est aussi le jour du crash du vol 425 du Air Portugal, deuxième accident le plus meurtrier du pays. Je passe sur les autres crashs et fusillades orchestrées ce même 19 novembre. Et puis j'ai oublié, c'est aussi la journée internationale des toilettes. Toilettes, WC, chiottes, si, si, je vous jure. Donc franchement, on aurait choisi le jour des mocassins à gland, que ça aurait été le même respect pour les hommes. Même si pour certains, c'est comparable.
Est-ce qu'on peut en revenir au sujet? Parce que vous n'avez pas trop fait avancer la cause féministe, là, depuis deux minutes.
Alors là, c'est un vrai chaos technique, Margot. Je ne m'y attendais pas, là. Vous me mettez une vraie Stéphane Plaza dans la tronchetta. Ah non, mais c'est typique, hein, ça, c'est la rivalité féminine. Il faut pourtant que je vous parle d'Olympe de Gouges, qui a publié en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et son article premier qui dit « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». C'est un petit peu le début de la reconnaissance des droits de la femme. Mais vous allez me dire que la Révolution française n'a pas vraiment modifié la condition des femmes et ne leur a pas ouvert non plus le chemin de la citoyenneté. Par contre, le chemin vers les lavoirs et l'infantilisation, ça c'était toujours ok.
Alors de quoi se plaignait-elle?
Eh bien, peut-être du fait qu'en 1804, le code débile civil a institutionnalisé l'infériorité de la femme qui doit obéissance à son mari. Ah bah Dominique Pellicot, il a pris ça trop à cœur, hein. Alors attention, not all men. Et au passage, merci Napoléon pour le code civil, hein, mais fallait pas gros. Bon, karma quand même, hein. Le gars, il est mort à Sainte-Hélène, prénom de meuf. Il y a peut-être une justice, finalement. Mais ça, ne le dites pas trop fort, ça risque de faire fuir les Balkany, hein. Enfin, quoique, si, du coup, dites-leur qu'il y a une justice.
Et ensuite, un peu d'espoir, quand même.
Ah, ce n'est pas la fin des péripéties pour nos six stars. Sous la Troisième République, les femmes bénéficiaient d'avancées, et certes, comme l'accès à l'instruction. Bon, même si à la place des cours de physique appliquée, il y avait des cours sur comment bien entretenir son foyer. Mais c'était peut-être pour comprendre les principes de biodynamique du feu, hein. Feu, foyer, vous avez compris, Marco?
Oui, mais si vous devez expliquer votre blague, c'est qu'elle n'est pas très bonne, Priscilla.
Oh la vache! Mais le retour du chaos technique, Mac Tyson qui arrache l'oreille d'Alexander Holyfield, c'est pas smart, Margot, hein. Même si c'est peut-être mérité. Bon, restons sur les conflits et passons à la Première Guerre mondiale, qui va démontrer que les femmes sont indispensables au bon fonctionnement de l'économie. On n'avait pas trop de doutes en même temps, parce qu'elles vont prendre la place des hommes dans les usines, dans les champs, tout ça pour l'effort d'une guerre qu'elles n'ont pas demandé. Et elles auront en plus toujours à s'occuper des enfants et du quotidien. Bref, Première Guerre mondiale rime avec début de la charge mentale. On saute la Seconde Guerre mondiale, hein, comme Depardieu avec les figurantes, et on arrive à l'ordonnance du 21 avril 1945 qui accorde enfin, le droit de vote et l'éligibilité aux femmes. Alléluia! Et un premier vote le 29 avril 1945 aux élections municipales. Ouais, faut pas aller trop vite, hein. La préoccupation première des femmes reste d'être les plus belles et pas la politique, voyons. Donc, on n'allait pas les faire voter un truc important non plus. Parce que c'était con quand même d'être celle qui tissait les rideaux des isoloirs et de ne pas pouvoir les utiliser. Puis vient l'égalité entre femmes et hommes, inscrite dans le préambule de la Constitution. Vient aussi l'autorité parentale conjointe, qui est enfin reconnue. C'est un comble quand même que ça n'arrive que maintenant, dans la mesure où ce sont quasiment exclusivement les femmes qui s'occupaient des enfants, mais bon. Joie suprême, enfin la possibilité depuis 1965 pour une femme d'exercer une profession sans l'autorisation de son mari. Bon, globalement, quand on regarde l'histoire, c'était quand même plus funky de ne pas avoir de mari. Hein. T'étais mal vu, mais t'étais plus libre. Surtout que quand on est marié, on sait que la monstruosité peut prendre des formes très diverses. Clin d'œil à Kaamelott.
Et ça, c'est pas faux.
Enfin, oui, mais les femmes ne seront libres qu'à condition qu'on arrête d'exploiter leur corps. C'est pour ça que par une loi du 13 avril 1946, on a eu un début de quelque chose avec la loi Marthe Richard qui a interdit les maisons closes. Close, rien à voir avec un problème de clé cassée dans la serrure ou de porte coincée. Hein. On parle justement de lieux où ce sont les braguettes qui sont un peu trop ouvertes. Mais en parallèle de cette fermeture des maisons closes, on va inscrire les femmes prostituées dans un fichier pour les identifier. Pas encore ni putes ni soumises. Hein. En novembre 1947, Germaine Poinceau-Chapuis est la première femme à obtenir le titre de ministre en France. Il faudra attendre 1991 pour que Edith Cresson soit la première ministre française. J'ai du mal avec ce mot ministre, ça fait très Richelieu, Mazarin. À chaque fois que je le dis, je m'attends à voir débarquer les trois mousquetaires. Attention, hein, chers hommes, je ne parle pas des trois mousquetaires d'Intermarché, hein. Ne me renvoyez pas à ma condition de femme déléguée aux courses alimentaires. C'est ici que sonne le glas de cette première partie de ma chronique. En effet, ma cuisine m'attend. Ah mais non, je ne prépare pas des petits plats pour mon bien-aimé, hein. Non, je m'y donne une potion pour l'égalité dans mon chaudron. Appelez-moi sorcière si vous voulez. Moi, je me vois plutôt comme une enchanteresse. Les mots ont leur importance en matière d'égalité des genres, hein. Je vous aurais prévenu.